commencions cette session qui est, vous le savez, le 21e atelier de cette série des ateliers d'histoire de l'art. Je vous rappelle que deux autres sessions suivront dans cette année universitaire, une autre consacrée à la peinture flamande, si ma mémoire est bonne, dont un sujet bien différent, et une troisième sur un sujet également très différent, puisqu'il s'agira d'évoquer un certain nombre de questions touchant aux arts d'Extrême-Orient. Bref, trois thématiques qui viennent notamment des propositions que vous avez pu faire l'an passé, hein, et qui vont nous amener dans des contextes tout à fait différents. Ce premier atelier, qui comptera cinq actes, comme d'habitude, a pour but d'évoquer la question de la mosaïque et d'essayer de regarder ce domaine artistique un peu sous toutes les coutures. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient là les années précédentes, mais il y a quelques personnes nouvelles, et tant mieux. Alors, je rappelle que nous avons des petites règles dans ces ateliers, que je vous rappelle toujours la première fois de chaque atelier, mais sur lesquelles je vais très vite après pour ne pas non plus lasser mon auditoire. Je vous rappelle que n'hésitez pas dans ces ateliers à prendre la parole. Par contre, il est important de ne pas la monopoliser. Nous suivrons à chaque fois une certaine méthodologie qui peut être différente, évidemment, selon les cas. Donc, on essaiera de parler dans tous les sens. L'idée est de limiter les commentaires subjectifs, sauf si vous êtes invité à le faire, hein, car nous avons ici une attitude qui est celle de scientifiques, d'historiens, hein, d'historiens de l'art. Nous n'utiliserons pas Internet, du moins dans le cadre de cette classe. Vous êtes invité à le faire évidemment à l'extérieur. Et puis enfin, si vous êtes très connaisseur des questions que l'on va évoquer, je vous remercie de ne pas tout de suite prendre à chaque fois la parole pour ne pas mouiller le pétard et que, j'allais dire, les bénéfices de l'atelier ne soient pas aussi complets qu'on pourrait l'imaginer. Voilà nos petites règles que je ne rappellerai pas à chaque fois, même si je les afficherai en début de chaque séance. Alors, je vous propose que nous commencions dans le vif du sujet. Cette première séance qui va un peu nous mettre en jambe pour les quatre séances successives est organisée autour de deux chapitres. D'abord, un chapitre un peu technique. On parle de mosaïque, donc j'aimerais bien qu'on voit techniquement ce que cela veut dire. Et puis ensuite, il y aura un deuxième chapitre. Je vous ai concocté un petit pêle-mêle de mosaïques françaises célèbres que l'on va à la fois essayer de reconnaître, savoir de quelle époque elles datent, à quel endroit elles se trouvent, et puisque ce sont des mosaïques assez célèbres, j'espère qu'on pourra les trouver. Voilà donc comment on va s'organiser ce cours en deux parties, une partie technique, on saura un peu de quoi on parle, et une partie pour se mettre en jambe, plus thématique, qui donc a choisi toute une série de mosaïques qui se trouvent dans notre beau pays. Vous avez vu, il y a même des ondes qui parlent. J'espère que ce ne sera pas comme ça durant toute la séance. Bien. Alors, première partie technique. J'aimerais que vous me disiez ce que c'est que pour vous une mosaïque. Une mosaïque, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une mosaïque? Alors, je vois pas. C'est peut-être parce que c'est très sombre ce soir. Hein, vous êtes d'accord, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est plus sombre que l'habitude. Je vois rien. Là. Vous voyez rien non plus.
Bon. Non, on voit le gars de vous quand même.
Oui, c'est déjà ça. Hein. Bien. Donc, je repose ma question. Une mosaïque, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une mosaïque? Un ensemble de tesselles. Une représentation. Des morceaux.
Un genre de dessin.
Pas toujours, pas au début, pas en Grèce.
Un genre de dessin.
Une surface.
Confectionnée avec des petits
carrés reliants.
Une combinaison de petits carreaux de différentes sortes.
Au sol ou mural.
Au sol ou mural.
Ou même en coupole.
Voire au plafond ou en coupole. Collé.
Pain,
pas toujours, émaillé.
Les matériaux, minéral, porcelaine, cuit, terre cuite,
Vert, pierre.
Même galet chez les Grecs.
Galet chez les Grecs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs. Ouais.
C'est toujours en relief.
Toujours en relief.
Non.
Ah non.
Non, non. Non.
Ah, moi, je ne fais que répéter. Hein.
C'est en relief.
Donc, pas en relief, pas en relief. Bon. Les deux. Plutôt plat, non, pas en relief.
Ça peut être figuratif.
Ça peut être figuratif.
Ça peut être que géométrique.
Ou ça peut être que géométrique, très bien. Est-ce que, on va remettre ça un peu dans l'ordre, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir à peu près épuisé le sujet sur la définition, comme le ferait un dictionnaire, hein, de ce que c'est qu'une mosaïque ? Vous pensez que tout est dit à peu près ?
Le support ?
Mur, donc, ou bien sol, ou même plafond. Ah, où est-ce qu'on place, sur quoi on le met ? Ouais.
Extérieur ou intérieur, d'ailleurs.
Extérieur ou intérieur. Bon, on en a dit des choses, hein. Donc, si on remet peut-être tout ça dans l'ordre, vous avez dit, hein, qu'une mosaïque est d'abord un ensemble d'éléments, de petite dimension. Disons que vous avez dit quand même ce mot-là, hein. Je ne suis pas sûr qu'une mosaïque se fasse avec des morceaux de 1 mètre sur 1. Hein. Donc, un ensemble, une composition faite à partir de plusieurs éléments. On a entendu un mot qui est le mot tessel.
Oui.
Bon. Le tessel, c'est quoi alors ?
C'est
un petit cube.
C'est l'unité.
Voilà, c'est l'unité de base de la mosaïque. Hein. C'est donc un petit cube. Ce n'est pas un petit carré, c'est un petit cube, puisque c'est en trois dimensions. Hein. À partir du cube, à partir duquel on peut, en les assemblant à d'autres cubes, faire donc une mosaïque. Donc c'est un ensemble d'éléments qui composent un décor. Vous avez indiqué d'ailleurs qu'il s'agit de décor abstrait ou de décor figuratif, que l'on peut trouver sur le sol ou sur les murs. Vous avez également indiqué que ces éléments constitués de la mosaïque que vous avez appelé le tessel pouvaient être dans des matériaux divers. J'ai entendu parler de pierre, j'ai entendu parler de terre cuite, j'ai entendu parler de verre, je crois.
Oui,
hein?
Oui.
Ok. Et vous avez, en tout cas au moins une d'entre vous, a insisté également sur l'élément sur lequel la mosaïque a été posée. Hein? Alors, on peut pas simplement le fait que ce soit le mur ou le sol, mais les éléments qui constituent le substrat, hein, de la mosaïque. Hein? Ok. Ben, ça paraît en effet pas mal. Hein. Je crois que vous avez bien défini effectivement ce que c'est. C'est-à-dire pas une technique super compliquée, la mosaïque. Enfin, c'est plus simple d'en parler que de le faire, sans doute. Hein. Mais enfin, effectivement, je crois que vous avez bien dit ce qu'il en était. La mosaïque, c'est un ensemble d'éléments, tessels, mais on verra que pas que. D'ailleurs, certains d'entre vous ont dit, mais quelquefois, c'est pas des tessels. Ça peut être des galets, par exemple. Hein. Des galets tout faits, si j'ose dire. Hein. Donc c'est pas des petits cubes. C'est des petits sphères, plus ou moins. Hein. Donc la tesselle n'est pas le seul élément de base à la mosaïque. C'est un des éléments possibles. C'est un des éléments fréquents, mais ce n'est pas le seul. En tout cas, la mosaïque, c'est bien un rassemblement de petits morceaux de matières différentes. Vous avez bien noté que ces morceaux constitués à la mosaïque n'étaient pas simplement d'une seule matière, ils pouvaient être de plusieurs. Vous avez bien noté les types de matériaux divers. Vous avez bien noté que la mosaïque était posée sur un support et que ce support était important. Ça, c'est important de le dire aussi parce que, évidemment, quand on regarde une mosaïque, on voit la mosaïque elle-même. On ne se rend pas compte qu'en dessous, il se passe des choses. Hein, et que le dessous, le substrat de la mosaïque, il est important parce que, notamment pour les mosaïques de sol, il convient évidemment que, pour que la mosaïque tienne, le substrat soit sain, quoi. Hein. Donc, en général, une mosaïque, c'est pas simplement une couche de mortier, et puis paf, on met les tesselles ou les autres éléments constitutifs par-dessus. C'est généralement plusieurs couches superposées, hein, qui vont en gros d'une couche un peu grossière et bien drainante, hein, un peu épaisse au départ. Hein. Généralement, quand on fait une coupe dans une mosaïque, on voit que la mosaïque, c'est quoi, 2 cm d'épaisseur, hein, et qu'en dessous, c'est vraiment la face visible de l'iceberg, hein, en dessous, il y a vraiment toute une épaisseur qui est capitale, autrement la musique ne tiendra pas, mais une épaisseur très très grande, hein, qui est faite de plusieurs couches, une couche basique de quelques 15-20 cm, qui est faite de, à la fois de mortier, de gros morceaux de bois, et puis après, 2 ou 3 couches plus fines, qui ont vraiment pour but de poser ce substrat. Donc effectivement, le substrat sur la musique, il est très très important, d'abord pour les mosaïques de sol. Hein. C'est important de le dire parce qu'on n'y pense pas toujours. On voit la jolie mosaïque, on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Hein. Et ce qu'il y a dessous est capital. Hein.
Voilà. Ça peut être sur un objet aussi.
Il y a quelquefois des mosaïques sur des objets, parce que vous avez parlé de support, donc vous avez dit effectivement qu'il y a des mosaïques de sol, c'est, j'allais dire, les plus évidentes. Hein. Il y a les mosaïques de parois, de murs. Vous avez parlé des mosaïques de plafond ou de voûte, c'est important. Il y a effectivement des mosaïques sur des objets, hein. Ça existe aussi, vous avez tout à fait raison. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a une chose à laquelle je pensais que j'ai oublié à l'instant, que je crois que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, ça va sûrement revenir. Enfin, je crois que vous avez bien fait le tour, hein, de ce que c'est qu'une mosaïque. Comment est-ce que on fabrique, parce que vous avez parlé notamment des tesselles, hein, comment est-ce qu'on fabrique ces petites tesselles qui sont l'un des éléments de base pour la réalisation de mosaïques ? Oui, et on les coupe comment ? Parce que c'est finalement le
ciseaux,
voilà. Alors,
oui. Il y a aussi un marteau spécial.
Voilà, il y a un marteau spécial.
Spécial arrondi.
Alors, il y a effectivement des petits marteaux spéciaux pour les mosaïstes, hein, qui permettent de couper, enfin de réaliser ces petits cubes. Les tesselles, en général, pas toujours, hein, sont quand même très souvent en marbre. Hein, ou en tout cas dans des calcaires, quelquefois métamorphisés, un peu solides, un peu forts. Donc pour les tailler, pour faire des petits cubes à peu près cubiques, hein, on a un petit type de matériel qui est ce type de marteau-là. Hein. Vous avez là une mosaïque en cours de réalisation. Hein, hein. Je pense que vous voyez la mosaïque à gauche, hein, en cours de réalisation, avec toutes les petites tesselles posées côte à côte. Et voilà le type de petit marteau qu'on utilise, hein, avec deux petites lames à chaque extrémité qui permettent, avec un petit coup sec, de créer des petits cubes. Vous avez dit quand même une chose importante également tout à l'heure, qui apparaît là, c'est peut-être ce que j'avais en tête et que je n'ai pas restitué dans ce que vous avez dit, mais une mosaïque se fait également selon un dessin qui est donc abstrait ou figuratif, mais qui est généralement préexistant. Enfin, sauf si c'est, si la mosaïque, c'est simplement un fond noir, par exemple. Hein. Mais il y a souvent un dessin préexistant. Hein. Et ce dessin préexistant, il est fait comment ? C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez représenter, je sais pas, la naissance de Vénus sur une mosaïque. Bon, comment vous y prenez ? Alors, pas pour ce qu'on vient de dire, hein, il faut faire des tesselles, les tailler, il faut des substrats, etc. Comment est-ce que vous faites pour le dessin que vous avez en tête, votre naissance de Vénus, pour la faire mosaïque sur le sol ? Voilà. Donc vous faites déjà une esquisse, effectivement, vous faites déjà un dessin sur un papier, sur un document, que sais-je encore, absolument. Et ensuite, oui. Voilà, généralement, ce que l'on fait, c'est que sur la dernière couche qui est réalisée, on peut mettre des repères qui permettent de, j'allais dire, décalquer l'esquisse que vous avez faite sur un papier, que sais-je encore, hein, sur le sol pour ensuite mettre vos tesselles. Hein. Ça veut dire que, en général, on ne part pas comme ça sur le sol, j'allais dire, un peu à l'aventure. Hein. Il faut quand même avoir une esquisse préexistante. Bien. Je vous ai préparé une série de 6 ou 8 vues, je ne sais plus très bien, qui montrent des mosaïques, mais qui vont nous permettre d'aller peut-être un tout petit peu plus loin sur les types de mosaïques que l'on peut trouver. Alors, je vais vous les passer, et puis j'attends, une fois qu'on les aura vues, vos commentaires. Alors, je vous les passe déjà dans un sens, dans l'autre, et puis après, on les reverra. OK ? Toujours pour s'interroger techniquement sur ce que c'est qu'une mosaïque. D'accord ? Alors, je vous les passe. Je vous les montre, hein, après, on en discutera. Thank you. On les repasse dans l'autre sens, et après on les reverra une à une. Voilà. Alors, voilà, il y en a quoi, 6 ou 8, je ne sais plus, mosaïques, hein, ou en tout cas, détails de mosaïques. Tous ces éléments datent de l'époque antique, hein, l'époque romaine même, voilà. Donc, pour l'instant, on ne va pas du tout s'encombrer de questions d'époque ou autre. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'on les regarde d'une manière technique. Bon, ça, cette mosaïque représente... un canard. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le plan technique concernant cette mosaïque ?
Peu de couleurs.
Peu de couleurs, oui.
Il est décalé vers le bas.
Décalé vers le bas. Le canard.
Le canard.
Oui, alors ça, c'est peut-être pas trop de la technique. C'est en effet de... Mais évidemment, le canard, il est un peu en bas, oui.
Mais on peut faire un tableau.
Oui. Alors là, vous ne parlez pas trop de technique, vous parlez plutôt d'esthétique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, le canard est un peu en bas, il est plutôt bicolore, ce canard, enfin noir sur fond blanc. Okay.
Souvent, le sujet est cerné par des tesselles de fond.
Oui.
Qui entourent l'objet.
Oui, oui.
Oui. Vous avez le canard et autour, il y a une série de tesselles qui suivent à peu près partout, hein. La forme du canard pour ensuite permettre de lisser en quelque sorte le reste du fond, oui.
C'est très rectiligne.
Oui, c'est assez rectiligne.
Par moment, on a des tesselles triangulaires de manière à pouvoir prendre le tournant plus facilement.
C'est ça. On voit dans certains cas, hein, parce que vous avez raison, tout ça est assez rectiligne. Alors, les tesselles ne sont pas non plus des petits cubes parfaits. Quand le mosaïste fait ses petits cubes, hein, les cubes sont quelquefois des cubes... voilà, pas très cubique, si j'ose dire. Hein, voilà. Au-delà de ça, vous remarquez effectivement, tout ça est assez rectiligne. Bon, les tresses là, tout autour sont réalisées de manière assez régulière, hein, et le fond est effectivement assez rectiligne. Et comme vous le dites, par moment, il y a des demi-cubes en quelque sorte qui sont
utilisés pour
rattraper, je dirais, le dessin.
Bien. Il a utilisé qu'un seul matériau, mais de différentes couleurs.
Oui, oui, manifestement, on a là. Alors, quel type de matériau c'est, à votre avis ? C'est de la pierre, oui.
De la pierre sainte.
Oui. Alors, c'est de la pierre peinte ?
Ah non.
Non, de la
pierre. Voilà, colorée. C'est ça. C'est de la pierre, simplement, il y a des pierres colorées, effectivement. Il y a des pierres jaunes, des pierres rouges. On peut penser quand même que c'est beaucoup du marbre, là. Hein.
Mais il faut, de toute façon, si ce n'est pas du marbre, il faut un grain fin.
Oui, il vaut mieux. Et. Qu'est-ce que j'ai. Le marbre. Enfin, quel type de marbre on pouvait utiliser pour ce genre de mosaïque ? Je ne demande pas les natures de marbre. Hein. Pardon ?
En Gaule
ou ailleurs ? Je ne vous demande pas des marbres de quelle carrière, ou etc. Mais ce marbre, il provient d'où ? Il y a beaucoup de marbre d'Italie, il peut y en avoir en Gaule aussi d'ailleurs.
Des chutes d'autres.
Voilà, c'est beaucoup du marbre de chute d'autres. Parce que quand on. Bon, les Romains, vous savez, on construit beaucoup en marbre. Hein. Et évidemment, quand on fait des grandes architectures avec des grosses colonnes et autres, il y a de la chute. Hein. Ces chutes, elles sont beaucoup utilisées pour la mosaïque. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous imaginez que le mosaïste se fait livrer des gros blocs de pierre de 3 tonnes et puis qu'avec son petit marteau de tout à l'heure, paf, 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 il fait des petits cubes. Hein. C'est évidemment beaucoup des chutes dans lesquels il fait les petits cubes dont on a parlé. Donc là, les chutes, c'est important. Donc là, somme toute, on a une mosaïque, j'allais dire, assez normale, avec des tesselles. Alors certes, il y en a qui sont plus ou moins régulières, il y en a qui sont plus ou moins des demi-cubes pour rattraper le décor. Enfin bon, on est devant quelque chose d'assez régulier. Par parenthèse, tout à l'heure, on évoquait le fait que quelqu'un avait dit quelquefois c'est en relief, d'autres disaient non, c'est pas en relief. Effectivement, les mosaïques de sol, il vaut mieux pas qu'elles soient trop en relief. Ça pose des problèmes. Par contre, les mosaïques murales ou de voûte, hein, parce qu'il y en a, hein, pouvaient, elles, l'être. Hein, au contraire. Mais évidemment, les mosaïques de sol sont plutôt, au contraire, pas en relief. Là, il y avait un moyen pour que ce soit vraiment pas en relief, c'était lequel ? Alors,
les acrylés, les tesselles dorées pour faire de la lumière dans les...
Alors ça, effectivement, mes laves dont vous parlez, effectivement, de tesselles de voûte ou de plafond, c'est juste. Hein. Par contre, si on revient aux tesselles de sol, puisque il faut que ce soit vraiment bien plat, parce que votre sol, vous avez intérêt à ce qu'il soit plat pour marcher dessus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour être bien sûr que ce soit bien plan, parce que c'est important que ce soit plan, alors que, effectivement, dans des voûtes, ou dans, vous pouvez avoir des effets de relief, mais là, parce qu'il faut que ce soit plan, vous pouvez abraser le sol. Une fois que le sol est fait, en général, vous l'abrasez, hein, pour qu'il y ait une sorte de platitude de la mosaïque. Si vous voulez.
Même dans les mosaïques quantiques, on avait ce qu'il fallait ?
Ah oui, absolument. Oui, on abrasait. Alors,
avec quoi ?
Oh, avec des matériaux, ça peut être par exemple un grès.
Oui.
Une sorte de ponce, quoi.
Même le marbre.
Ah oui, bien sûr. Alors, bon, l'idée n'est pas non plus que tout soit absolument super plat, mais enfin, quand même, suffisamment pour permettre une utilisation confortable. Bien, donc finalement, voilà une mosaïque très, très habituelle. Voilà. Alors, là.
Du marbre. Mais là, ce ne sont plus des tesselles.
Ce ne sont plus des tesselles.
Mais
forme géométrique, oui. Donc, ce ne sont plus des tesselles. Là, vous qualifieriez ça de quoi ?
De marqueterie.
Oui, des sortes de pavés, on pourrait dire, d'une certaine manière, oui. Ça ressemble à une marqueterie. On a une sorte de marqueterie de marbre. C'est pas mal, ça, comme idée, oui.
Elle n'a pas l'air achevée, puisque le tour...
Voilà. C'est plutôt le fait qu'elle est mutilée, qu'elle a été d'ailleurs assez mal restaurée. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que c'était complet, ça a été très abîmé, et donc, voilà, il manque des morceaux qui ont été mal restaurés, avec un béton dont vous apprécierez la qualité.
Oh, gris,
c'est assez moche, mais enfin, voilà.
L'origine, c'était entier, tout ça. Voilà.
Donc là, on a un type, effectivement, de mosaïque un peu différent, qui n'est pas faite, vous l'avez dit, avec des tesselles bien cubiques, mais avec des plaques. On a une sorte de marqueterie de plaques de pierre.
Hein. Ça porte un nom spécial ou pas ?
Ah, à votre avis ?
Sûrement, mais...
Sûrement.
Alors, effectivement, ce à quoi je veux en venir, c'est que ces types de mosaïques portent des noms particuliers. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas ce type de mosaïque-là de la même manière que la mosaïque que je vous montrais précédemment. Hein. Celle bien sage, j'allais dire, avec nos tesselles alignées, correspond à un type de mosaïque, et ça, à un autre. Vous avez une idée de nom, peut-être ?
Non.
Non ?
La marqueterie de pierre dure, c'est pas ça ?
On pourrait dire ça. Hein. Ça, c'est finalement la marqueterie de pierre dure. Hein. Mais pour qualifier ça, ce genre de mosaïque-là, il y a un nom spécial. Mais on verra ça un peu plus tard. Hein. Pas tellement. Plutôt latin. Voilà. Hein. Qui commence systématiquement. À chaque fois, d'ailleurs, c'est en deux mots. C'est-à-dire qu'aussi bien le type de mosaïque précédente que celle-là, c'est deux mots. Le premier mot, peut-être que vous pouvez l'imaginer.
Opus.
Opus.
Alors, opus incertum, peut-être.
Pourquoi pas hein. Gardons en tête ce nom de opus d'abord, et pourquoi pas cette locution, pourrait-on dire, de opus incertum, ou incertum. Enfin, le mot opus paraît pareil, fleuve d'erreur, évidemment, et que, voilà. Hein. Bien, on regarde la troisième mosaïque.
Super petit.
Pas mal, hein.
C'est beau, ça, oui.
Hein. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Là, plein de détails, effectivement. Hein.
Il y a des ombres.
Finesse, ombre.
De quelle taille ?
Oh, quand vous, les tesselles font quoi ? 1 centimètre, 1,5 cm de largeur. Vous voyez, c'est donc une idée de large. Hein.
On a 1,50 m.
À peu près, oui.
C'est au sol.
Elle est bien travaillée parce qu'il y a des reliefs. Alors, je ne sais pas si on peut dire... Est-ce que vous diriez qu'il y a des reliefs ?
Non, c'est les ombres qui donnent l'effet de relief.
Voilà. Il y a un effet de relief. Parce que, encore une fois, on est sur un sol, donc il faut que ce soit plan, autrement on se casse la figure, c'est pas le but. Il y a un effet de relief. Hein. Il y a effectivement des ombres, hein, vous le voyez, hein, c'est quand même très, très remarquable. Hein. Donc il y a un effet de relief, mais c'est plan.
Ça donne plus de volume, du coup.
Voilà, un effet de volume. Ouais, tout à fait. Hein. Il y a de la couleur. Et alors, justement, cet effet de volume, qui apparaît notamment à travers la couleur et le côté ombre que vous disiez, il est obtenu techniquement comment ?
Avec des pierres différentes.
Avec des pierres de couleurs différentes, mais c'était le cas avec notre canard de tout à l'heure. Pensez à notre canard, là aussi vous avez un réseau.
On dégradait,
on
est
dégradé.
Il y a des
dégradés.
Voilà. Ouais. La position des tesselles n'est pas pareille.
C'est plus délicat.
Alors oui, alors c'est vrai que le dessin ici est beaucoup plus complexe. Hein. Donc on a toujours quand même un peu cet effet de silhouettage hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Alors que le canard, c'était un silhouettage autour du canard, et après, pof, on alignait les tesselles. Hein. Là, puisque c'est beaucoup plus compliqué, c'est un travail bien plus virtuose. Hein. Et puis, au niveau des tesselles, il y a quand même une petite chose qui apparaît. Qui apparaît un petit peu... Oui. Oui. Oui, oui, regardez, effectivement, hein. Quand vous regardez là, notre canard, bon, il y a deux, trois tesselles un peu triangulaires à droite et à gauche pour combler les vides, quoi, parce qu'il fallait bien rattraper le truc. Bon. Là, c'est bien plus systématique, hein. Quand vous regardez l'animal, notamment regardez les ailes, là, hein, vous avez des tesselles qui sont, vous voyez, ça, c'est absolument minuscule, ça fait quoi ? Ça fait 5 mm de large, quoi. Hein.
Et puis pas cubique.
Et pas cubique.
Enfin, oui, parlez cubique.
Donc effectivement, là, vous avez... La bonne grosse tesselle cubique traditionnelle, hein. Puis vous avez de la petite tesselle minuscule taillée une par une pour que ça se case au bon endroit. Hein. Donc c'est pas notre canard de tout à l'heure. En gros, il y avait des tesselles noires, des tesselles blanches toutes cubiques d'un centimètre sur un, et ce qui permettait de faire le canard en question. Donc effectivement, là, on a une technique qui est quand même plus...
Raffinée.
Voilà, raffinée. Hein. Plus virtuose. Hein.
Est-ce que c'est la totalité?
Non. Non, là, c'est un détail. Hein. Ce qui est d'ailleurs encore plus remarquable, parce que quand vous imaginez tout le bazar, enfin, ça doit être quand même étonnant. Hein. Très beau, hein. On regarde la suite. Très coloré.
Géométrique.
Géométrique.
Là, c'est beaucoup plus
gros. Il était sèche,
ouais.
C'est
géométrique.
Assez géométrique, oui, des grosses tesselles, bon. Si vous aviez à comparer ça à ce qu'on a vu avant, vous vous rappelez, hein, le canard, les plaques de marqueterie, le petit oiseau sur sa fleur, ça vous rapprocheriez de quoi ? Du canard. On a vraiment quelque chose d'assez équivalent du canard. Hein. C'est de la bonne grosse tesselle, on met ça côte à côte, bon, voilà. Il y en a de différentes couleurs. Il n'y a pas non plus, on n'est pas allé non plus chercher il y a 14 heures. Il n'y a pas l'espèce de diaprure de la mosaïque précédente. Hein. Ou c'est de la tesselle au mètre. Quoi. C'est bien, hein, mais voilà, on est là quand même dans quelque chose d'un peu... Hein. Donc proche du canard. Ça vous passe, ça hein. Même si ça ne représente pas la même chose. Mais on a des tesselles carrées, enfin cubiques. Hein, un peu comme le canard de tout à l'heure. Bien.
Là. Alors, c'est à la limite de la mosaïque. Hein.
Alors, voilà, là, c'est à la limite de la mosaïque. C'est-à-dire qu'on est dans des parages qui sont... Alors, si on suit notre définition de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des éléments qui constituent un sol, enfin, en tout cas, un revêtement qui peut être deux sols, deux murs, etc. Bon, c'est quand même ça. Ce que sont bel et bien des éléments qui constituent un ensemble. Évidemment, en même temps, on ne peut pas dire que le dessin soit très élaboré, sinon qu'il est fait par les morceaux de pierre eux-mêmes. Voilà, mais je vous ferai remarquer que tout à l'heure, vous avez parlé de... vous avez dit que ces tesselles ou éléments constitués pouvaient composer une composition tout à fait abstraite. Bah, c'est une composition abstraite, hein. Donc on n'est pas hors de notre sujet, même si... On est effectivement dans les marches, dans les marges de la mosaïque. Pardon ? Il y a un côté utilitaire. C'est effectivement le fond d'un bassin. C'est-à-dire ce que vous avez là, c'est un fond de bassin. Donc il y a une dimension utilitaire. Mais je suis persuadé que dans certaines des salles de bain qui sont les vôtres, on trouve sur les sols des choses qui ne sont peut-être pas antiques. Là, on est au IVe siècle, hein, mais qui sont contemporaines avec des morceaux comme ça de carreaux côte à côte. Hein. Ça a été très à la mode dans les années 60, par exemple. Hein, voir, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on appelle ça le dala japonais, même parfois. Enfin, pourquoi on va chercher ça au Japon. D'ailleurs, il vrai au Japon, il y a ça aussi. Mais enfin, bon, voilà. Donc, on est là, effectivement, dans, j'allais dire, les frontières hein, de la mosaïque. Mais c'est malgré tout quelque chose qui est à garder dans notre orbite de la musique. Parce que la musique, c'est pas... la définition qu'on a donnée tout à l'heure peut correspondre à ça aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on est là dans des marges un peu spéciales. Hein. Voilà. OK. Alors là, il y a encore du canard dans l'air. Et un chat qui attrape un oiseau. Très petite tesselle, très fine. Hein. Il y a des moments où on a du mal à les voir, tellement c'est fin. Regardez-moi ça. Ouais. Alors là, c'est pareil, dans l'idée de regrouper un peu les photos que je vous montre, ça vous mettez, ça vers quoi ? Avec l'oiseau de tout à l'heure. Hein, voilà. C'est-à-dire un travail beaucoup plus virtuose, plus raffiné. Hein. On n'est pas dans de la tesselle au mètre, mais dans quelque chose. C'est un peu l'inverse du fond de baignoire que je vous ai montré avant. Hein, voilà. On est aux deux extrémités. Hein. Le fond de baignoire, c'est vraiment le niveau zéro. Là, on est dans le raffinement mosaïste. Hein. Ah. On verra.
Mais c'était des artistes ou...
Alors ça, c'est effectivement des questions, mais peut-être qu'on sera amené à se poser plus tard. Mais effectivement, là, vous pointez le doigt sur une vraie question, c'est-à-dire là, quel est le statut hein, de celui qui fait ça hein. Est-ce que vous avez là une création originale, vous voyez ? Il y a vraiment un artiste qui, au lieu de faire de la peinture, de la sculpture, fait de la mosaïque, mais invente la composition, et avec sa matière, son médium qui est la musique, le fait. Ou bien est-ce que c'est, en gros, hein, je résume peut-être, ou est-ce que c'est la copie en mosaïque d'une composition faite en peinture, par exemple ? On peut se poser la question. On se la posera d'ailleurs, mais pas aujourd'hui. Mais c'est une vraie question. Hein. Elle est effectivement importante, surtout quand on voit quand même des choses comme ça qui sont vraiment raffinées. Hein. Ouais. Elles sont intéressantes et vous faites bien de la mettre en avant. En tout cas, bon, on rapprocha de notre oiseau tout à l'heure, techniquement parlant. Hein, on est d'accord.
C'est comme le canard.
Comme le canard.
Mais c'est une inclusion, apparemment, dans un sol.
Alors, à votre avis ?
Ben, c'est au même niveau.
Ça a peut-être été restauré, c'était tout comme ça, et puis il y a eu des...
C'est régulier.
Mais il faudrait voir plus loin.
Je pense que c'est d'intérieur. Hein. Ouais. Donc je sens qu'il y a comme un flottement. Le flottement, c'est que, bon, vous l'avez dit, hein, les éléments qu'on voit là font beaucoup penser à notre canard ou à notre sorte de rosace de tout à l'heure. Hein. Ok. Par contre, là où je sens un flottement, au-delà de nos tessellomètres là, hein, c'est pour le reste. Hein, où vous voyez, qu'est-ce que vous voyez le reste ?
Mais c'est très abîmé, du béton.
Une sorte de béton, de mortier, on va dire peut-être, hein, de mortier.
C'est le lion qui est apparent.
C'est le lion. Donc, ça voudrait dire que la mosaïque est partie partout, sauf dans quelques endroits. Autrement dit, trop régulier. Ouais. Le hasard serait quand même trop étonnant, hein, trop miraculeux. Hein. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là ?
Il manque quelque chose.
Donc le fond, en fait, il y a une restauration un peu foireuse, si vous me permettez l'expression, et les restaurateurs un peu lourds ont paf mis les morceaux et puis le reste, ils ont mis un petit béton.
Non,
c'est pas ça non plus. Bon, alors c'est quoi ?
Et ça s'est abîmé peut-être après ?
Pardon ?
C'est un décor pour agrémenter simplement.
Bah oui, pour.
Voilà, donc il s'agirait de quelque chose de voulu. Hein. C'est-à-dire le décor est conçu comme ça, effectivement. C'est-à-dire que c'est un décor qui est conçu avec des panneaux de mosaïque, un mosaïque à tesselle, toute simple, et puis, entre ça, un mortier qui d'ailleurs, parfois, vous le voyez peut-être, hein, mais inclut quand même des morceaux de pierre, hein, alors on les voit plus ou moins bien, hein, mais il y a des éléments de pierre un peu plus importants que d'autres. C'est pas un mortier, c'est pas un béton chez béton, hein, c'est un béton avec des petits morceaux de pierre plus ou moins gros, quoi. Hein.
Alors, ça peut pas être tout ça s'est abîmé par la suite.
Ben, c'est ce que pensaient certains ou certaines parmi vous, mais ça semblait ne pas vraiment emporter l'adhésion.
C'est-à-dire que il y a des trucs épais là.
Ouais, ouais. Oui, qu'est-ce que vous appelez des trucs épais? C'est ça, comme
ça? De pierre, je pense.
Ça, ouais. Ça, c'est peut-être parce que c'est la limite du dégagement de la fouille, hein, plutôt. Hein.
Ça pourrait être la décoration d'une allée.
Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que j'ai mis cette diapositive pour deux raisons. D'abord parce que effectivement, elle mélange un peu deux types de mosaïques. Hein. Ces mosaïques bien pépères, tesselles, comme le canard, tranquille. Et puis un type de revêtement de sol qui est un peu là aussi à la limite borderline, comme on dit aujourd'hui, de la mosaïque, c'est-à-dire qui sont des espèces de galets, bouts de pierre, etc. Très très simple, hein, où là c'est le hasard qui fait le sol, hein, où on mélange en gros du mortier à la pierre et puis pof, on met sur le sol. Donc c'est intéressant parce qu'il y a deux types de revêtements de sol, la mosaïque était celle habituelle et puis un revêtement de sol qui est difficile un peu d'appeler mosaïque, mais enfin qui est quand même une sorte de mosaïque parce que vous avez quand même, hein, des petits morceaux de pierre, moi je les vois bien là où je suis, hein, tout ça c'est des petites pierres, hein, avec quelquefois des plus grosses, hein, on en voit là, etc. Voilà, donc c'est, j'allais dire, plus basique si vous voulez. Mais c'est important ce que vous disiez parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un regard sur les mosaïques qui est tout de suite nous amène dans les mosaïques plus super luxueuses. Hein, quand on pense aux mosaïques, on voit, waouh! On voit les grandes mosaïques célèbres, fameuses, extraordinaires. Hein, bien. Mais il faut voir qu'il y avait des quantités de mosaïques comme ça. Et le problème, c'est que souvent, on n'y pense pas trop. Et c'était effectivement des mosaïques qui étaient faites pour, vous savez, entre deux pièces, il y avait un petit couloir, ben, paf, on mettait ça dans le couloir. Parce qu'on n'avait pas non plus mettre de la mosaïque super partout, quoi. Hein. Mais on n'avait pas non plus de rien mettre. Alors, entre deux pièces où il y a de belles mosaïques, bon, on mettait ce genre de choses, parce que de toute façon, ce n'était pas la peine de faire mieux. Hein. Ou bien dans des cours, ou bien dans des, je sais pas, moi, des allées, que sais-je encore. Hein. Donc, effectivement, je vous ai mis ça parce que quand on pense mosaïque, il ne faut pas forcément penser à des mosaïques extraordinaires, virtuoses, merveilleuses, celles qu'on voit partout et qu'on admire beaucoup. Il y a aussi la mosaïque de base, la mosaïque du pauvre, si j'ose dire, hein, qui est finalement le degré un peu zéro, soit parce que c'est fait pour et par des gens qui n'ont pas les moyens de se payer autre chose, hein, soit parce que ça orne des lieux, on a vu là un fond de baignoire tout à l'heure, ou un fond de bassin, qui n'ont pas besoin non plus d'avoir forcément toujours des mosaïques extraordinaires. Hein. Donc pensons bien à ces différents niveaux, à cette hiérarchie de mosaïques. Et quelquefois, au fait, dans une même mosaïque, vous pouvez avoir deux techniques différentes. Hein. C'est le cas là, vous avez la mosaïque à tesselle, et puis un autre type de, entre guillemets, mosaïque, même si on est un peu dans les marges, qui est ça, qui fait l'entre-deux, si j'ose dire. On regarde la dernière.
Marbre.
Ouais. Oh, hein. Ouais. Alors ça, vous auriez, par rapport à ce qu'on a vu avant, vous rapprocheriez ça de quoi? Oui, voilà.
Oui, mais alors, il y a
une mosaïque, elle a été mise sur des carreaux.
Et il y a des carreaux.
Oui, c'est-à-dire vous avez des espèces de,
oui,
de panneaux, si j'ose dire. Hein,
oui,
voilà.
Des panneaux, oui.
Hein,
oui. Et ça repousse tout
de je pense pas. Je pense que ça a été fait vraiment par le mosaïste, ouais, comme ça. Aussi parce que quelquefois, c'est un peu plus simple d'avoir une plaque comme ça qu'une plaque comme ça. Voilà.
Ah, ouais.
Pensons quand même au fait qu'on passe souvent là-dedans les restes de ce qui a servi pour d'autres monuments. Donc, on n'a pas toujours des plaques. Enfin, voilà, c'est pas toujours facile d'avoir des grandes plaques. Hein. Vous voyez, trouver des trucs comme ça, pas évident. D'ailleurs, on les met bien en valeur. Et vous voyez que, comme par hasard, ils sont tous de couleurs plus ou moins différentes parce qu'il faut les trouver quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est dû aussi au fait que, d'abord, ça ajoute une sorte d'organisation, mais ça permet aussi d'avoir des matériaux un peu plus.
Et puis, alors, c'est peut-être une technique différente de fabrication parce qu'on doit reposer carreau par carreau après.
Voilà. Il y a aussi que c'est pratique, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut préparer ces carreaux de côté, puis après les remettre. Voilà, c'est assez pratique. D'ailleurs, il y a des techniques de carrelage qui reprennent exactement ça. Hein. Le carrelage en terre cuite, hein, exactement identique. Hein. Au Moyen-Âge, c'est bien connu. Bien.
On dirait que là, on utilise aussi les marbres de marbrure en naturel de la pierre.
C'est juste.
Pour faire la composition.
C'est juste. Oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs là toute la différence entre la mosaïque à tesselle, hein, on l'a vu tout à l'heure, la veine de la pierre, elle ne peut pas apparaître. Et ces mosaïques-là, avec des plaques, on a parlé de marqueterie hein, tout à l'heure, hein, où là, on peut jouer sur la qualité là, d'un marbre avec ses vénures, hein, où là aussi, vous voyez, ce marbre rouge avec des sortes de taches jaunes, enfin... Et là, la puissance, la force de la matière peut jouer et est mise en valeur dans ces espèces de grands médaillons. Vous avez raison, ces marqueteries de marbre jouent beaucoup là-dessus.
C'est joli.
Ouais. Ah oui, c'est toujours marbre. Bon, ça, effectivement, ça nous rapproche peut-être de ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez, la mosaïque avec déjà la marqueterie de marbre dont tu as vu, qui était en partie restaurée, pas très bien. Vous vous rappelez de ça, hein ? On est très proche de ça. Bien. Alors, je crois qu'on a, à travers ça, bien fait le tour du type d'opus qu'il peut y avoir. Hein. Maintenant, on va essayer, puisque vous les avez rapprochés, justement, de les rapprocher, puis de voir quel nom on trouve à ça. Hein. On vous avait parlé tout à l'heure, je crois, de Incertum, c'était ça que vous disiez, voilà. Donc, on va voir, peut-être qu'on va le retrouver là-dedans, parce qu'on a vu, en gros, qu'il y avait 3 ou 4 grands types. Hein. Il y a le type canard, si j'ose dire, avec les tesselles. Hein. Il y a le type marqueterie. D'accord. Il y a le type oiseau, vous savez, avec des toutes petites tesselles comme le chat, etc. Vraiment, hein.
Très nuancé.
Voilà. Et puis, voilà. Et puis, alors, il y a le type plus basique, avec des gros bouts de cailloux, en clair, hein, qu'on met côte à côte, hein, et puis qui est un peu plus basique. Quoi. Voilà. Ça fait peut-être 4 grands types, ça vous va, ça ? Alors, le premier type, c'est effectivement celui du canard. Ben, on appelle ça tout simplement l'opus Tessellatum. D'ailleurs, vous trouvez le nom de Tessel. En plus, Tessellatum. Et donc, je crois qu'on a bien décrit ce qu'il en était. Hein. Voilà, c'est des marbres. Voilà, c'est-à-dire, c'est très sage. Hein. On ne va pas revenir dessus. Et on retrouve ça de la même manière dans la mosaïque que vous avez vous-même rapprochée, hein, qui est celle-ci. Voilà, un autre opus Tessellatum. Hein. Voilà. Donc, je vais dire, ça, c'est la mosaïque, le type de mosaïque peut-être le plus célèbre, qu'on voit beaucoup en Gaule romaine, par exemple, hein, avec des tesselles. Enfin, plus tessellatum, c'est la base, très, je veux dire, c'est du boulot, hein, de la mosaïque. Yeah. Donc ça, c'était une première famille que l'on avait nous-mêmes envisagée. Il y en a une deuxième, que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est le plus vermiculatum. Hein. Parce que, vous l'avez remarqué, hein, dans cette mosaïque-là, comme dans l'autre que vous allez reconnaître, hein, qui est évidemment celle de l'oiseau, on a ces petits vermicelles, si j'ose dire, hein, vermiculatum, qui viennent au milieu de l'opus tessellatum faire que vraiment vous avez une mosaïque de toutes les nuances que vous avez dit. Alors là, si j'ose dire, c'est... le vermiculatum qui prend le dessus sur le tessellatum, c'est pour ça que dans ces mosaïques qui mélangent les deux, on appelle ça du vermiculatum, parce qu'on peut avoir de tout petits morceaux de marbre ou d'autres matières enfin, qui viennent, oui, comme vous l'avez dit, pour nuancer les choses. Hein. Donc tessellatum, vermiculatum, c'est la deuxième grande famille. On a également ces mosaïques qui sont un peu à la marge de la mosaïque, on en a parlé tout à l'heure, qui sont quand même des mosaïques, mais qui sont un autre type de pavement, on va dire, hein, rien n'est jamais simple, hein, mais qui sont ce qu'on appelle des opus sectiles, c'est-à-dire des plaques de marbre, de la marqueterie de marbre, de pierre, hein, vous le disiez tout à l'heure. Hein. Voilà. Oui, ça vient de Libye, je ne sais pas dans quel état c'est aujourd'hui, mais voilà, très bel exemple. Et c'est aussi un opus sectile que vous avez là à Ostie, hein, dans les ondes de Psyché, avec ce très beau sol. Et puis, on a enfin notre grosse cavalerie, c'est ça qu'on appelle l'opus incertum, hein, c'est-à-dire un type de revêtement qui est décidément beaucoup plus irrégulier, fait de morceaux qui font un peu bruts aussi. Hein. Mais il y a une esthétique de ça, hein, et dans des périodes très anciennes, hein, une esthétique de ça, de la matière brute que l'on met, c'est pas forcément dévalorisant, hein, oui, simplement pour un autre usage. Et notamment pour les bassins.
Je ne sais pas
pas le dire tout à l'heure, parce que je pensais que ce serait prétentieux de dire que les allées étaient faites en opus incertain.
Ah oui, non, non, mais c'est, on pourrait dire ça, hein, absolument. Et alors, on a des mixtes, hein, parce que là, finalement, on a un opus tessellatum avec un opus incertum. Parce que ça, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez des trucs de morceaux, de matériaux différents, vous voyez. Il y a des petits, des gros, des... Et donc, c'est, ça comble le Lévi, en quelque sorte. Donc, voilà, grosso modo, ce que l'on peut dire, hein, en ce qui concerne une typologie générale de la mosaïque. Et maintenant qu'on a un peu débroussaillé le terrain, j'aimerais, pour nous mettre en jambes, vous savez que j'aime bien généralement les premières séances des cycles, qu'on, avant d'entrer dans les choses un peu plus sérieuses, qu'on débroussaille un peu, là, je vous ai préparé quelques mosaïques qui se trouvent en France, qui appartiennent à des époques ou des lieux tout à fait différents. Ce sont des mosaïques assez célèbres, et je voudrais un peu qu'on parle dessus, qu'on essaie de voir ce qu'elles représentent, de quand elles datent, quel monument elles décorent, enfin bref, et quel type de mosaïque, de quel type de mosaïque il s'agit, sur un plan plus technique. Hein. Donc une conversation à bâton rompu sur des mosaïques que, bien entendu, je n'ai pas mis dans le bon ordre. Vous reconnaissez bien, là. Première mosaïque. Alors d'abord, on va peut-être voir ce que cela représente. Alors c'est un mois de l'année, effectivement. Alors c'est pas compliqué. Voilà.